montagnes si lointaines qu'on ne sait pas si les aigles les atteignent et pourquoi. Dans la plaine on fait des signes de croix.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Superbe ce vieux taco dit de ça, cette Rosengar, oh là là, ah, ça secoue un peu, mais oh là là, allez, on va pousser le moteur, allez, 20 à l'heure, 25 à l'heure, 30 à l'heure, oh, c'est pas très confortable, ça cahote, oh, ça cahote, et, mais qu'est-ce qui se passe, bling, blong.
Bonjour à tous et à toutes, Radio Libertaire 89.4, l'émission Cibispacem. Cibispacem est animée par les membres du groupe parisien de l'Union Pacifiste, de la section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre. Bonjour Elsa.
Bonjour papa.
Bien, la famille écoute au complet, formidable. Bien sûr, toujours notre ami Gérard Durand, à qui nous rendons toujours eu un hommage avec palindrome des bus, oui, qu'il a enregistré il y a fort longtemps. Ce CD, vraiment, là, est formidable. Je ne sais pas si on peut toujours en trouver, mais si vous voulez, et peut-être essayer de voir avec d'autres membres de l'Union Pacifiste, vous pouvez écrire à l'Union Pacifiste, section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre, 66 boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Il y a aussi un site internet www.unionpacifiste.org. Voilà. Et si vous voulez vous abonner au journal et aider aussi l'Union Pacifiste, vous pouvez envoyer un chèque de 30 euros pour avoir l'abonnement au journal, et avec 25 euros en plus pour l'adhésion à l'Union pacifiste, ce qui vous fera 55 euros, et pour l'année complète. Et vous recevrez tous les mois, tous les mois ou tous les deux mois, selon comment vont les finances de l'Union pacifiste. Comme ça. Mais là, je vais commencer aujourd'hui par... non, on va faire comme le tour de table. Qu'est-ce que tu veux nous présenter, Elsa ?
Alors, deux articles de la bannière de Greenpeace. Une parlant des élections européennes qui sont très proches, c'est le mois prochain. L'autre de l'action justice contre Total Energy. Il y aura aussi un petit édito de la revue Plante et Santé auquel je suis abonnée. Et ainsi qu'un article très intéressant sur la biodiversité, que fait la police de l'environnement ? Voilà. Et selon le temps imparti, un peu de Bertrand Chouvenel.
Voilà, on espère pouvoir. Et bien sûr, tout ça entrecoupé, saucissonné par mes soins de plage musicale.
Oui. Voilà. Bon, je vais d'articles de l'Union pacifiste.
Bien sûr, agrémenté aussi. Je vais commencer par l'édito. Arrêtez les guerres. Depuis 1966, ce journal explique comment en finir avec tous les militarismes. Déjà, le barrage et la plume, le barrage et la patrie humaine avaient été œuvrés dans ce sens avant 1939. Puis la voix de la paix et liberté ont diffusé ces idées irréfutables en faveur de la suppression de l'armée. Ceci avait été créé par Louis Daucoin à l'époque. Pour les panurges, qu'importe le chemin, pourvu qu'on arrive à l'abattoir. Mur de la peur, la sidération accompagne l'attente de l'effondrement lié à la Troisième Guerre mondiale. Si le port des armes pouvait régler autre chose que les intérêts de milliardaires et de fonctionnaires du meurtre, ça se saurait. Jamais il ne sera possible de changer la société avec les instruments même de l'oppression. L'expansion technologique ne se dissocie pas du capitalisme militaire, donc de la mort. Le langage politique est conçu pour rendre les mensonges crédibles et le meurtre respectable, et pour donner une apparence consistante à ce qui n'est que du vent. C'est George Orwell qui l'écrivait en 1946. La parole du pouvoir apporte la guerre. Alors, avant 2007, l'Union européenne ne disposait pas d'une branche opérationnelle. En 2021, la Facilité européenne pour la paix, la FEP, autorise la livraison d'engins militaires sur un théâtre d'opération. Bel exemple d'aide au développement. Des fortunes de profiteurs de guerre. En parallèle, 40 000 crèvent la dalle français sans relais dans la réserve opérationnelle. Suffit de s'inscrire sur le site réserviste des armées. Dure sélection, avec simple confirmation par téléphone, d'où les ratés du processus de convocation. Après 3 appels sans réponse, retoqués, pas assez motivés. Objectif, 8 000 recrutements par an pour pallier les départs en retraite. Avec plus de 30 000 CRS et gendarmes mobiles, la France est un des premiers pays occidentaux par le nombre de casques et matraques pour encadrer jacqueries d'agro-industriels et fiestas sportives. Jamais poulailler n'a été aussi bien nourri. 38 millions de grenades, 7 escadrons de gendarmes mobiles et 4 compagnies républicaines de sécurité, et soit 11 nouvelles unités de forces mobiles, avec 800 gendarmes et autant de CRS, plus 15 milliards d'euros partis en fumée d'ici à 2027. Depuis 2017, les crédits alloués au ministère de l'Intérieur ont grimpé de 4 milliards pour atteindre le chiffre 20,6 milliards, dont près de 15 est les seules missions de sécurité. Embauches multiples, hausse des salaires, primes à répétition, matos à volonté. Gérald Darmanin ne se refuse rien, ne refuse rien à ses sbires, même pas d'échapper à l'égalité devant la justice. Armée en avant. En 60 ans, la France a mené 32 grandes expéditions militaires et une centaine d'OPEX de moindre importance. L'opération Sentinelle, depuis les attentats de 2015, occupe à elle seule 10 000 hommes et femmes de l'armée de terre, soit 10% de la troupe. 203 000 soldats et 41 000 réservistes représentent 4% des effectifs de la fonction publique. En haut, les gradés fusionnent avec les élites de l'économie, pantouflant comme directeurs de sécurité. En bas, difficile de s'engager pour la gamelle. 1 400 euros net logés, nourris, blanchis. Quand on a des problèmes de poids, de vision et de dents, on se surconsommation d'écran. Le mouvement social s'insurge dorénavant contre la police, sa violence, sa militarisation. Avec le SNU, la CGT fustige la militarisation de sa jeunesse. Agir avec l'UPF vise la fin de ces noces barbares du ministère des Armées avec l'éducation nationale. Voilà. Comme ça, c'est l'éducation nationale qui paye le SNU, pas le budget de l'armée. Non. L'éducation, elle a trop d'argent. Alors là, tu vois où on en est.
Oui, voilà. Et ben, je suis bien contente de ne plus être scolarisée. Et je le dis ouvertement. J'espère être maman. Et moi, mon petit ou ma petite, il sera en pédagogie active. Ça, c'est sûr. Okay.
Nous allons faire une petite pause musicale.
Oui.
Derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation, l'exil de nos frères. bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, Al-Talam. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Ceci est le dernier CD de Dominique Grange, Détruisons le mur. Elle a été, avec son mari Jacques Tardy, ils ont été en Palestine et elle a tellement été émue de ce qu'elle a vu, qu'elle a écrit ce texte de 6 minutes 13 et qui montre bien la bêtise de tout mur qui encercle les prisonniers. Alors je trouve complètement effarant. C'est que les Juifs, durant la Seconde Guerre mondiale, on les a vraiment tout le temps entourés de murs. On les a parqués, tout ça. Et maintenant qu'ils ont un petit pays, alors que si on remonte la nuit des temps, la Palestine et les Juifs ont toujours vécu ensemble. Il y avait un petit endroit dans la Palestine qui s'appelait la Judée. Et tout se passait très très bien. Et maintenant qu'on a remanié je sais combien de pays dans le monde entier, vu les grosses têtes pensantes américaines, anglaises et russes, quand ils ont fait le partage de tout, ils ont trouvé ce petit endroit de la Palestine pour créer Israël. Mais normalement, les Palestiniens, on doit aussi de vivre dans ce même espace. Tout ce qui entoure Israël, c'est la Palestine, ce qui reste. Alors que ce n'est pas ce qu'il y a en dehors des frontières d'Israël, ça n'appartient pas à Israël. C'est pour les Palestiniens. Ils devraient plutôt leur donner ce qui reste de disponible. Il n'y aurait plus de guerre. Et c'est complètement absurde ce qui se passe en ce moment.
L'idée déjà absurde, c'est d'avoir voulu créer Israël. Oui. C'est les Juifs, comme tu l'as dit. Cette idée-là, elle est absurde et c'est ça qui a créé le conflit. Le conflit sous prétexte que les Juifs n'avaient pas leur propre terre. Ils vivaient dans la Palestine avec les Arabes.
Oui. Avec les Palestiniens.
Avec les Palestiniens
C'était le monde arabe, tout ça.
Oui,
tout le monde.
C'était le monde arabe. Ils vivaient avec eux. Ils se mariaient entre eux. Pourquoi oublier ? Ça, c'est vrai. Bonne question. Pourquoi avoir oublié ça ? Comme si les Arabes étaient fautifs.
C'est pas, ils sont pas répulsifs comme les Juifs ou comme les Chinois, toutes les
races. Non, ils sont même les premiers et ils sont même les premiers à reconnaître qu'ils se mariaient entre eux, que dans leur propre sang coule du sang juif suite au mélange.
Et de toute façon, si on faisait une grande enquête génétique dans le bassin méditerranéen. Que ce soit Maroc, Algérie, Égypte et tous les autres pays, à force, avec tous les conflits qu'il y a eu depuis le 17e, 16e et 19e siècle, et même avant, il y a toujours eu les bateaux qui venaient faire du commerce, et ben les gens s'installaient.
Oui, mais ça fait des siècles que nous sommes, des millénaires que nous sommes mélangés.
Alors que,
des millénaires.
Alors que le Borgne, dans sa Bretagne de merde, dise pas que c'est un blond et qu'il est de sang pur et d'avoir de sang arabe qui coule dans ses veines. Alors qu'ils ne viennent pas nous dire des conneries.
En effet.
Bon, Elsa, je te laisse la parole.
Alors, donc je vais commencer par l'article de la bannière concernant les élections européennes. L'Union européenne a une lourde responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. Les choix faits par le Parlement européen, qui sera élu en juin prochain, seront décisifs non seulement pour l'environnement, mais aussi pour nos droits. Le point en trois questions. Je vous prie de m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Que pèse l'Union européenne en matière de climat ? D'après les données de la Commission européenne, les 27 pays membres représentent le quatrième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, avec près de 7% des émissions derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Historiquement, l'Union européenne à 27 est responsable d'un sixième des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et à l'industrie cumulées depuis le début de l'ère industrielle. Par ailleurs, les États membres ont délocalisé une partie de leur industrie et importent massivement des produits fabriqués sur d'autres continents. L'Union européenne a en quelque sorte exporté ses émissions, notamment en Chine. Les politiques européennes ont donc un effet bien au-delà des frontières de l'Union européenne. L'Union européenne a-t-elle les moyens de mieux faire ? Oui, l'Union européenne peut et doit mieux faire pour l'environnement. Entre 1990 et 2020, elle a réduit de 32% ses émissions de gaz à effet de serre, d'après les données compilées de différentes études. Elle a aussi mis en place un ensemble de mesures contre la pollution des eaux et de l'air, ou encore pour l'encadrement et la traçabilité des OGM. C'est bien, mais insuffisant. Sans effort plus soutenu, l'Union européenne ne parviendra pas à atteindre son objectif de baisse des 55% des émissions d'ici à 2030, pourtant peu ambitieux. Oh là là. Ah, ce chat, mon Dieu. Oh là là. Le pacte vert européen, un ensemble de mesures concernant l'énergie, les transports, l'agriculture, l'industrie ou encore la finance, est bien trop faible pour déclencher un changement profond. Ce qui se joue dans ces élections européennes, c'est aussi et surtout notre capacité de porter des transformations de nos sociétés. De même, la politique agricole commune, PAC, qui vise à soutenir le marché agricole et le développement rural à l'échelle européenne, continue de subventionner massivement une agro-industrie très polluante au détriment de milliers d'agricultrices et d'agriculteurs qui doivent pouvoir vivre décemment tout en préservant l'environnement. Les accords de libre-échange, tels que celui avec le Mercosur, sont dénoncés à juste titre par le monde agricole, car ils favorisent une concurrence déloyale et risquent d'avoir des conséquences catastrophiques sur les plans environnemental et social. Et les tentatives de déréglementation des nouvelles technologies génétiques, nouveaux OGM, se multiplient. Les parlementaires auront le pouvoir d'agir sur nombre de questions cruciales. Climat, pesticides, sécurité alimentaire, qualité de l'air et de l'eau, santé publique. Mais plusieurs listes candidates, notamment d'extrême droite, voudraient détricoter des normes qui, même si elles sont insuffisantes, restent une garantie pour notre santé et la protection du climat et de la biodiversité. L'issue de ce scrutin décidera donc de la capacité du Parlement européen de peser sur ces dossiers clés. Comment défendre l'environnement si nos droits fondamentaux sont bafoués ? Ce qui se joue dans ces élections européennes, c'est aussi et surtout notre capacité de porter des transformations de nos sociétés qui visent à préserver notre environnement, protéger les droits humains et apporter des réponses aux inquiétudes légitimes des populations qui subissent de plein fouet la crise énergétique et inflationniste. Les partis conservateurs et nationalistes se nourrissent des peurs que suscitent ces transformations et de la colère contre la montée des inégalités et la paupérisation de larges catégories de la population. Leurs programmes en matière environnementale sont réduits à des réponses populistes, frisant le déni climatique, mêlant techno-solutionnisme, repli sur soi et régression des droits fondamentaux. L'Union européenne doit préserver ce socle commun de liberté et de droit. Elle doit aussi renforcer son action pour une transition écologique qui ne laisse personne au bord de la route. La progression du bloc d'extrême droite au Parlement européen mettrait en péril, sans nul doute, notre capacité collective de défendre nos valeurs fondamentales et de progresser vers un avenir meilleur pour tous. Aux urnes. Plus de 400 millions de personnes seront appelées à voter lors des élections européennes du 6 au 9 juin 2024. En France, le scrutin se tiendra dimanche 9 juin. 15 de plus, le Parlement européen comptera 720 députés femmes et hommes à l'issue du scrutin de juin, contre 705 actuels, dont 81 seront élus en France pour 5 ans. La commission ENVI, la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire, est actuellement la plus grande commission du Parlement européen. Ce n'est pas un gage de protection de l'environnement. Elle n'a pas soutenu l'interdiction du glyphosate et s'est prononcée en faveur de la déréglementation des nouveaux OGM. Objectif non respecté. La France est le seul État membre de l'Union européenne à ne pas respecter son engagement sur la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale brute énergétique en 2020. Une petite pause musicale pour digérer tout ça.
Il était où le gentil pangolin ? Ou qu'il était donc le drôle de machin? Sur le marché, hein? Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait là, le gentil tiki-ki? Il fallait pas les chouiller le frufru. fallait pas lécher le fruit de papy. Papy, il a mangé le fruit. Maintenant, qui sait qu'il est dans le caca? Et la chauve-souris alors? La chauve-souris, qu'est-ce qu'il en a fait le petit pangolin? Et les serpents, hein? Et les fourmis, qu'est-ce qu'il a boulotté le petit gourmand? Il était où, hein, le pangolin? Il était où le gentil petit malin? Il était où, hein, le margoulin? Le margoulin, où c'est qu'il était où?
Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça?
Où c'est qu'il était le kiki et le papy et le frufru et les serpents, les chauves-souris sont avec kiki au proxy?
Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça?
Il était là, le gentil pangolin, les chauves-souris et les méchants serpents. Ils étaient là, ouh, y en avait plein, sur le marché de fruits de mer du Rouen. Papy poussait son petit ticadi, il faisait les courses pour mes mères. Et les fruits de mer, hein, ils sont pour qui? Ils sont pour le reste au cœur de mes mères. Et le pangolin alors, le pangolin, est-ce qu'il a une gueule de coquille Saint-Jacques? Le pangolin, hop, dans le caddie, alors c'est qui c'est qui a bouffé quoi? Qui l'a bouffé, hein, gentil kiki? Qui c'est qui dit que ça a très très bon goût? Qui n'aime bien ça, hein, le pangolin? À qui ça n'en a fait un bon ragoût?
À qui, hein, à qui? À qui, hein, à qui?
Et si c'était pas des fruits de mer, papy a ramené à mes mères? Que si c'était un mammifère, tant pis, mes mères, faut bien que ça sert.
À qui, hein, à qui? À qui, hein, à qui?
Kiki, fallait pas traîner au proxy. Kiki, tout le monde, il est dans le pétrin. Et les conneries, ouh, on en fait plein. Depuis Kiki a refilé son zinzin. Qu'est-ce qu'il a fait, oh là, le pangolin? Kiki a fait pleurer Agnès Buzyn. Non mais des fois, oh, vilain tout plein, alors qu'elle a déjà plein de tracas. Et l'économie alors, foutue en l'air. Kiki s'en fout que ça coûte un pognon de fou. Le capital, hein, foutu par terre. Kiki, il est plus fort que Philippe Poutou. Le plus con-con, hein, c'était qui? Mais qui cette idée de le punaine? C'est toi Kiki ou ceux qui t'ont cuit? D'ailleurs, qui c'est qui est le plus fidèle d'eux?
C'est qui, hein? C'est qui? C'est qui, hein? C'est qui?
Et si c'était pas le Kiki le plus con-con, alors c'est qui, du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui?
C'est qui, hein? C'est qui?
Toute façon, c'est pas à cause de Bibi.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas le Kiki le plus con-con, alors c'est qui, du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'est pas à cause de Bibi.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas le kiki le plus grand con, alors c'est qui? Du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'est pas à cause de Bibi.
Alors c'est qui?
Mais si c'était pas le kiki le plus grand con, alors...
Oui, vous avez entendu Les Goguettes. Les Goguettes. C'est une chanson qui est tirée de leur album Le Temps Béni de la Pandémie. Mm-hmm. C'est une version du Yuki de Richard Gottener, revu par Aurélien Merle, avec mis en musique pour l'actualité. Voilà. Et si vous n'avez pas qui est le Yuki, c'est que vous avez du retard. Tu nous lis?
Alors, je vais lire l'édito de Plante et Santé, rédigé par la rédactrice en chef Isabelle Saget. Soigner l'addiction aux pesticides. Alors, le prénom des enfants a été changé. Gabriel, 3 ans, a été diagnostiqué d'une leucémie. Léon a été opéré d'un hypospadias, une malformation du pénis. Grâce à la consultation pesticides et pathologies pédiatriques, ouverte depuis peu au CHU d'Amiens, le lien entre leur maladie et l'exposition aux pesticides in utero du fait de la profession agricole de leurs parents a pu être établi. Le docteur Sylvain Chameau, qui a créé cette consultation, estime que 1 000 à 2 000 enfants pourraient être concernés. Jusqu'à présent, ce sont les mères surtout qui cherchent à comprendre, et elles ne sont pas si nombreuses. En effet, malgré des études scientifiques parfaitement explicites, leur mise en avant récurrente, beaucoup d'agriculteurs ont encore du mal à regarder la réalité en face. Aussi, que cette vérité vienne de médecins qui ne les culpabilisent pas, c'est la société qui est coupable, pas les agriculteurs, répète le docteur Chameau, pourrait faire bouger les choses. Dans le cadre privilégié d'une consultation médicale, la prise de conscience peut avoir lieu. D'autres médecins, via l'association Alerte des médecins sur les pesticides, ont décidé de monter au créneau pour dénoncer le déni dont font preuve les autorités publiques quand il s'agit des connaissances scientifiques démontrant les impacts des pesticides sur la biodiversité et la santé humaine. Dans l'appel lancé le 28 mars, l'association demande aux soignants de se mobiliser pour cette cause. Les professionnels de santé peuvent en effet jouer un rôle très important dans le combat contre les pesticides, car la prévention est au cœur de leur mission. Le médecin aiguille aussi ses patients vers des habitudes de vie saines, attire leur attention sur les risques auxquels ils peuvent s'exposer. Le font-ils quand ils reçoivent un viticulteur qui a pulvérisé au cours de l'année jusqu'à 18 traitements pesticides sur ses vignes? N'y a-t-il pas là une mission de santé publique à relever? Alors que de plus en plus de soignants sont sensibilisés aux dangers que représentent les pesticides, une action systématique sur le terrain pourrait démultiplier le message, avoir un impact salutaire, etc. La mobilisation pourrait ainsi prendre la forme d'un mouvement d'obéissance civile sanitaire, pour enfin guérir notre société de son addiction aux pesticides.
Je vais vous lire le texte d'Yves Lecard, l'arcane de Jeanne. Un enfant est né, l'innocence est sauve. Un enfant, une enfant, combien d'enfants sont nés en ce même jour de la fin février? Combien sont nés depuis en mars, à l'aube du printemps? Combien d'enfants? Combien d'espoirs, combien de nouveaux mondes, combien d'œuvres de paix? Combien faut-il, combien faudra-t-il d'enfants pour compenser les pertes causées par cette étrange maladie contre laquelle aucun vaccin n'a été découvert? Aucun vaccin, sinon l'intelligence non artificielle, l'intelligence tout court qui permet l'entente universelle, du moins l'échange de convivialité, la paix. Les conflits inévitables, reliés, réglés sans violence, je veux dire le pacifisme, car cette étrange maladie, toujours mortelle, toujours suicidaire, infanticide, génocidaire, toujours universelle, toujours barbare, qui touche autant les enfants que les adultes, autant les êtres vivants que la planète, s'appelle la guerre, bella en latin, et pourtant guerre belle. Aucun vaccin, aucun toxin pour nous préserver des toxines. Même si certains crétins, bel anagramme, osent encore parler l'art de la guerre. L'art ne peut être dans la guerre. L'art ne peut être dans la destruction. L'art ne peut être dans la tuerie organisée. Pas plus qu'il n'y a de guerre juste. Pas plus qu'il n'y a de guerre sainte. Il n'y a pas de guerre artistique. L'art et du domaine de l'enfance. Seul l'art peut, sinon nous vacciner, sinon nous préserver, en tout cas témoigner. Témoigner qu'une autre vie est possible, que cette maladie archiséculaire n'est pas inévitable. L'art et l'enfance, l'enfance de l'art, l'art de l'enfance. C'est pourquoi nous nous réjouissons lorsqu'une enfant naît, 1000 enfants naissent, non pas pour participer au réarmement démographique, synonyme de future tuerie organisée, mais pour faire nombre, parce que ce jardin qu'on appelle la Terre, que les guerriers Macron-compatibles piétinent au besoin de vie, a besoin de vie, de joie, d'innocence, d'enfance. Il est toujours plus facile et plus agréable de faire un enfant que d'en tuer, non? Mais revenons à notre réalité d'aujourd'hui. Une enfant est née. Appelons-la Jeanne, prénom Saint-Paul, mère universelle. Tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle, nous dit Brassens. Mais avant d'être mère, laissons-la être enfant. Laissons les enfants être enfants avant que d'être des proies, des cibles, des cadavres. Laissons-leur cette chance. Laissez-nous cette chance. L'enfance, oui. La voilà l'œuvre d'art, l'art de l'enfance, l'art de la vie, l'art de la paix, jamais de la guerre. Combien d'enfants sont nés? combien d'enfants naîtront encore pour que la vie, la paix, la raison l'emporte sur ce virus avéré, ce virus à virer, ce virus à exterminer, une fois pour toutes, de la planète, de la galaxie, car ces assassins sont bien décidés à essaimer ce mal dans les étoiles. Combien d'enfants doivent naître pour que nous soyons plus forts que les chars, que les charniers, que les clapiers, que les charpies, que les caribes? Car l'enfant, c'est l'espoir. Tant qu'on ne lui a pas planté leur drapeau dans la tête, tant qu'ils ne n'ont pas enfermé dans leurs frontières, dans leur arbitraire, dans leur attrabitaire, attrape-nigo, leur religion nationaliste, l'enfant, c'est l'espoir d'un monde meilleur auquel on ne peut s'empêcher de croire, de s'accrocher. L'enfant, c'est celui qui apprend à dire non, qui apprend à penser, qui apprend à être libre avant que l'on l'enferme dans tous ses préjugés pervers. Que tous les enfants apprennent à dire non, il n'y aura plus jamais de SNU, plus jamais de tarés pour les transformer en petits soldats, en cadavres en sursis. C'est pourquoi nous nous réjouissons chaque fois qu'une enfant, Jeanne ou Jean, ou peu importe le prénom, naît. Bien sûr, l'enfant est mystère, nul ne sait ce qu'il deviendra, mais faisons-lui confiance, faisons-nous confiance. La vérité est en marche, la paix est en marche. Ils ou elles en sont les nouveaux garants. Il m'a rappelé, Rémi, que Jeanne était le prénom de la mère de Thérèse Collet, que nous rencontrions, c'est vrai, en allant effectuer notre tâche hebdomadaire de secrétariat, du temps où le courrier abondait dans la boîte aux lettres de l'UPF. Jeanne évoque aussi Jeanne Humbert, cette belle personne, figure du pacifisme, à laquelle notre ami Bertrand a consacré un film. Puisse ce prénom avoir quelques vertus prémonitoires, excusez-moi. Il eut Jeanne Hachette, bel exemple de femme rebelle, que les enfants nouveaux soient rebelles et non soumis. Les soumis, les obéissants, on en fait des héros morts ou de simples automates. Enfants et soldats sont des termes tellement antinomiques, tellement incompatibles, et dans le climat d'aujourd'hui, où les soi-disant responsables politiques se font criminels, infanticides, en formatant enfants, parents, enseignants, en les culpabilisant, en les acculant à l'idée de la nécessité, à l'obligation de réarmer, on ne peut que se réjouir de voir venir une nouvelle génération qui aura 20 ans en 2044. Comme Jonas a eu 25 ans en l'an 2000, film Alain Tanner dont nous parlions souvent, Rémi et moi. Et espérer que tous et toutes responsables, non malléables, insoumis, rebelles, pacifistes. Un enfant est né, c'est tellement plus agréable à dire plutôt qu'un enfant est mort, ce qui relève hélas du quotidien. Que dis-je ? Chaque seconde, on voit tomber une ribambelle, lagueuse et gourmande, et ses sbires très actifs, très serviables, très serviles. Comment le regard d'un enfant ne fait-il pas fondre tous ces fabricants de mort ? Une enfant est née, et ça tombe bien, même si le verbe tomber n'est pas le plus approprié, comme on dit. Malencontreusement, tomber enceinte, tomber en enfance, alors qu'il ne s'agit pas d'une chute. Disons plus justement que cela est opportun. Gardons la chute pour les événements tragiques, les prétendues ascensions au pouvoir, quand ce pouvoir est celui de détruire la planète et ses résidents. J'étais, sinon en panne d'inspiration, du moins un peu découragé, désespéré, que l'histoire se répète invariablement, que les mêmes erreurs, les mêmes horreurs à cause des mêmes malades qui gouvernent le monde se reproduisent, que les mots pacifistes n'aient pas plus de poids. Et puis, Jeanne est née, et je me vois, par ces lignes, en féliciter son pacifisme intégral de ce grand-père. Bravo, Rémi. Il y a un petit bout.
Oui. Félicitations. Félicitations, Rémi, pour cette naissance.
Petite plage musicale.
Il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons, envolé les machines au Maroc ou en Chine, et nous là comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus. On allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, voici venir l'orage. Il pleut. Dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains. Condamné à la casse, tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. Avec des jolis mots, égalité, justice, solidarité, dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir, mais tu les as trahis. Dès que tu as eu le pouvoir, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut. Dégage. Des sans droits, des sans voix, des damnés de la terre, des roms désignés comme boucs émissaires, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur, aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde-là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut. Dégage. Allez, qu'ils s'en aillent tous. Rentre tes noirs moutons, tes éminences grises et tes voyous patrons, les gardiens de ton ordre, les faillots de ta cour et les écrivaillons qui pondent tes discours. Ô ministres zélés, exécutant, ni oubli ni pardon pour la chasse aux enfants. Abat les lois racistes, abat les circulaires, les contrôles aux faciès pour remplir vos charters. Il pleut, y aura pas de rattrapage. Il pleut. Dégage. Emballe ton triple A, ta dette et tes marchés, ta bourse et tes traders, tes parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre monde est possible, et nous n'acceptons pas d'être des invisibles. Car nous sommes le peuple, celui qui crée l'histoire, fils de 89, rebelle et communard, dont les insurrections ont forgé nos consciences. Un peuple qui se lève et entre en résistance. Il pleut, voici venir l'orage. Il pleut. Tu peux plier bagages. Il pleut. Dégage.
Voilà, c'est tiré d'un album de Dominique Grange, N'effacez pas notre longue marche, qui est un mixte de plusieurs chansons qui sont de... Il y a des 45 tours autogérés, des choses qu'il avait fait à l'époque de 68, et d'autres albums, de Album Palace, N'effacez pas nos traces, et Des lendemains qui saignent. Et ceci, c'était un enregistrement inédit. Donc, il a dû sortir en 68, mais qu'elle a réenregistré en 2012. Voilà. Et c'est aussi à se procurer à Publico, 145 rue Amelot. Dans le 11e métro, Oberkampf et Fille du Calvaire. Sortez par République, parce qu'il y a toujours des manifs, et vous serez rejetés sur le quai. À toi, Lisa.
Eh ben, deuxième article de la bannière, l'étau se resserre autour de Total. Alors, vous avez certainement vu les publicités à la télévision mettant Total Energy sur un pied positif. Bon, eh ben, voilà qui sont réellement les entreprises Total Energy. Total Energy qui fête ses 100 ans en 2024, cristallise de plus en plus les critiques de la société civile. Cerné par plusieurs procès, le groupe a intenté une poursuite Bayon contre Greenpeace France afin de museler l'association. Les bénéfices exorbitants annoncés en février dernier par les majors pétrogazières européennes BP, Shell, Total Energy prouvent que leur business model reste bien en place. Détruire la planète au moyen de l'extraction d'énergie fossile reste une activité très lucrative en dépit de ses effets destructeurs et de l'urgence climatique. Face à ce cynisme, de nombreux commentateurs, ONG et scientifiques en tête, criblent la responsabilité de l'industrie fossile dans la crise climatique. Jour après jour, les activités climaticides ou bombes climatiques de ces multinationales font la une des journaux, à l'instar du projet EACOP de Total Energy, un oléoduc géant qui reliera les forages pétroliers d'Ouganda à la Tanzanie. Parallèlement, la société civile s'organise pour exiger la régulation de ce secteur et demander des comptes à ces superpollueurs en taxant leurs superprofits. Le rapport de force entre les tenants du statu quo et celles et ceux qui militent pour une transition juste et écologique ne cessent de se durcir. Ainsi, Greenpeace s'est récemment vu attaqué par plusieurs grands groupes pétroliers en Europe. En Grande-Bretagne, Shell menace de demander près de 8 millions d'euros à l'association, tandis qu'en Italie, ENI a engagé une procédure qui pourrait aboutir à un procès en diffamation contre Greenpeace Italie et une association alliée. En France, l'affaire remonte à avril 2023, lorsque Total Energy assigne Greenpeace France pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. En cause, la publication d'un rapport dans lequel nous présentions un calcul estimatif des émissions de gaz à effet de serre du groupe qui serait bien plus élevé que celle officiellement déclarée. Total Energy demande au juge d'ordonner la suppression pure et simple du rapport de Greenpeace et de toute mention y afférent. Pour Greenpeace France, cette procédure s'apparente à une poursuite Bayon visant à la censurer sur un sujet d'intérêt général et à étouffer toute critique de son bilan carbone. La procédure suit son cours. Ces tentatives d'intimidation judiciaire sont à la fois inquiétantes et inacceptables, mais elles sont aussi le signe que l'étau se resserre autour des géants pétrogaziers dont l'image est de plus en plus entachée. À mesure que la crise climatique progresse et devient palpable dans notre quotidien, les regards se tournent vers les responsables. La question de la responsabilité est aussi au cœur de la commission d'enquête lancée en début d'année par le Sénat, intitulée « Commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Energy des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France ». Visant à faire toute la lumière sur les activités du groupe et leur retentissement sur la crise climatique ou l'équilibre des pays où elle extrait des énergies fossiles, Cette commission doit aussi se pencher sur le rôle des responsables politiques en tant que garant des engagements climatiques de la France. La stratégie climaticide de la multinationale et le laisser-faire politique actuel sont ainsi directement mis en cause en haut lieu. Durant 6 mois, des scientifiques, des salariés du groupe ou encore des représentants de l'État sont amenés à témoigner devant le Sénat. Le groupe devra notamment répondre de sa politique expansionniste et de ses investissements massifs dans le pétrole et le gaz qui font de lui l'un des premiers responsables mondiaux du dérèglement climatique. La nécessité de mettre en place des politiques publiques ambitieuses pour encadrer le secteur sera également au cœur des débats. Quoi qu'il en soit, on peut se réjouir que le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, après avoir été décoré de la Légion d'honneur par le président Macron l'été dernier, soit aujourd'hui dans le viseur de cette commission, ainsi que les activités de son groupe.
C'est pas mal.
Oui, on a bien envie de les voir dégager, ces gens-là.
Comme dirait Dominique Grange.
Oui.
Dégage.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belles à votre propre désignée. Halte au con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'il la saute, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort au con. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons. Halte aux cons.
Que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez.
Désolé, j'étais avec un auditeur. Donc, c'était monsieur Michel Valette, un grand ami de Gérard, mort au con. Pour tout ce que font le gouvernement, c'est terrible. Alors, il est bientôt 19h, nous avons encore une petite demi-heure devant nous. Je vais faire un tour du monde en 80 guerres. Et ensuite, je passerai. On fera une petite pause musicale et ensuite, ça vous parlera de Bertrand de Jouvenel, le livre. Alors, le tour du monde en 80 guerres. Étudier pour les profiteurs de guerre. La guerre a l'air si lointaine en théorie, mais c'est ici qu'elle se fabrique. Ici, à Toulouse, c'est à l'université Paul Sabatier que se forment les futurs ingénieurs des massacres de demain. Des militaires antimilitaristes relayés par la CNT Haïti ont diffusé un tract qui s'adressait aux étudiants, futurs spécialistes dans l'aérospatial, l'aviation, l'optique, l'informatique, et qui sont actuellement les profiteurs de la guerre. Et qui sont actuellement les profiteurs de la guerre à Toulouse? Eh bien, il y a Thales, qui fabrique des drones, systèmes de missiles, véhicules blindés, et tout ce qui est fabriqué à tout but militaire. Deuxième groupe, Airbus, avions de transport de troupes, avions de combat, hélicoptères militaires. Safran, moteurs et équipements d'avions et hélicoptères pour l'armée de l'air. Mais aussi Ariane Group, fusées et satellites. Dassault Aviation, pour les aviations de chasse. Areva, tiens le nucléaire, Areva. Et Nexter, pour les chars d'assaut. Ne laissons pas les marchands de mort et leurs valets en paix. La Légion envahit la petite Russie. Le 7 mars, la population de Creuse, depuis la Courtine 1917, le département est connu pour le surnom « la petite Russie », a appris que le 2e régiment d'étrangers d'infanterie, unité de la Légion étrangère basée à Nîmes, devait se déployer dans le département du 8 au 14 mars. Cette manœuvre mobilisait 800 commandos et 120 véhicules, dont 40 blindés Griffon, afin de mieux se préparer dans un environnement réaliste. Des balles à blanc ont été abondamment tirées entre 7 et 20 heures. Au centre du Guéret, du 11 mars au matin jusqu'à le 13 mars à midi, des légionnaires ont simulé des combats aux abords pour conquérir la préfecture. Puis à 14 heures, malgré un rassemblement des opposants à la guerre, leurs matériels ont été exposés sur la place Bognot afin d'éduquer les classes maternelles. Eh bien, ils les apprennent jeunes. Une rafale de propagande. L'avion de chasse Rafale s'est étalé sur une demi-page du quotidien 20 minutes. 285 de ces engins ont été vendus à 7 pays depuis 2015. L'armée française en a recommandé 42 exemplaires en 2024, donc cette année. Présenté comme pour un catalogue de publicité, le Rafale, top du top, multimission. Il est capable de tout faire et il le fait bien. Bien armé, outre son canon intégré de 30 mm, le Rafale peut embarquer presque tout type d'armement. Autonome, il peut emporter 5000 litres de carburant, 5000 litres de pollution. Puissant, deux moteurs chacun puissants de 7,75. Il décolle sur 400 mètres, monte à plus de 16 000 mètres, tout en consommant moins que le Mirage 2000, le meilleur. Le Rafale est très, très performant, c'est certain. Dans ce journal gratuit, combien d'assauts a-t-il payé sa publicité en bombardant une cité? Combien de bâtiments peut-il détruire et combien de morts peut-il provoquer? C'est sorti dans le 20 minutes du 11 mars 2024. Caisse d'épargne mortelle. Le livret A va financer l'armée. Le Sénat veut aider à l'accroissement de la course aux armements. Après plusieurs tentatives infructueuses à l'Assemblée nationale, les sénateurs ont voté le 5 mars pour attribuer à l'industrie de la défense une partie de l'épargne du livret A. Alors, vous savez quoi faire? Retirez tout votre argent du livret A et mettez-le sur un autre compte. Pourtant, l'armée ne bénéficiait-elle pas déjà d'un budget de 413 milliards d'euros jusqu'en 2030? Conseil aux épargnants, continuez à placer vos sous dans vos chaussettes, sous le matelas. Ce petit article est sorti dans l'Humanité le 7 mars 2024. 800 000 obus. Un an seulement après avoir annoncé un investissement de 60 millions d'euros pour construire une usine de fabrication de poudre à canon à Bergerac, en Dordogne, la société Euranco est prête à lancer sa production. Le SNPE, leader européen de poudres et d'explosifs, prévoit l'entrée en plein régime en 2025. On a encore à attendre un an. L'usine emploiera 150 salariés de l'atrocité. Elle produira 1200 tonnes de poudre par an, couvrant ainsi le besoin de 500 000 charges modulaires, également fabriquées par Euranco, pour le compte de Nexter. Tiens, on en parlait là, les profiteurs de guerre. Donc du canon Kaiser, ou César. Enfin, afin de regonfler les stocks de la France et de livrer l'Ukraine. Nexter a accéléré la cadence en passant de 2 canons produits par mois à 8 en 2024. Ouh là là là, terrible. Habitants du Bergerac, prenez la poudre d'escampette avec vos valises pleines de vins locaux. C'était l'article est tiré du Figaro du 6 mars 2024. Au but par-ci, au but par-là. En visite à Prague, Macron devait évoquer l'achat de 800 000 obus et la fourniture programmée à Kiev de 500 000 obus de 155 mm et de 300 000 de 122 mm. La Belgique a annoncé sa participation à hauteur de 200 millions d'euros. Les Pays-Bas pour 250 millions. Et une quinzaine de pays se sont déclarés prêts à contribuer au financement de ces munitions. La France et le Canada ont annoncé 1,5 milliard d'euros chacun. C'est très beau dans le Figaro, ça, 5 mars 2024. BA-118. La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a organisé du 11 au 29 mars l'opération Volfa 2024, exercice majeur des forces conventionnelles de l'air et de l'espace. 1000 soldats y participent pour une vingtaine de raids aériens complexes, de jour comme de nuit, avec plus de 50 aéronefs Mirage 2005, 2000D, Airbus A400M, F-18 espagnol, Rafale F-4 et un 330 MRT, seul avion ravitailleur, ainsi que des Mamba, système sol-air, drone Reaper. Des détachements britanniques, canadiens, espagnols, grecs et italiens y ont joué à la guerre. Le ciel est très chargé et pollué par le sud-ouest et le massif central. C'était un petit texte du ministère des Armées. En Suède, le gouvernement conservateur met fin au financement des associations pacifistes. Ça, c'est triste. Tandis que le pays vient de rejoindre l'Alliance Atlantique et se remilitarise à marche forcée, le gouvernement de droite, soutenu par l'extrême droite, a supprimé les aides aux organisations œuvrant pour la paix et le désarmement. Cette décision remet en question l'avenir de plusieurs d'entre elles, dont la plus ancienne du monde, la Svenska Field. Jusqu'au printemps 2022, le mouvement de la paix et ses nombreuses organisations, souvent centenaires, étaient pourtant respectées en Suède. C'est sorti dans Le Monde et Libération. Et la dernière information recueillie par Rémi Thomas, la centrale de Civaux dans la Vienne, mobilisée pour la défense nucléaire. Pardon. C'est dans le cœur du réacteur de la centrale nucléaire de Civaux que vont être irradiées des matières contenant du lithium pour produire du tritium, un gaz destiné aux armes de dissuasion nucléaire. Eh bien, si l'usine ne leur pète pas à la gueule, ce sera terrible. Voilà. Une petite pause musicale pour essayer de long digérer ça.
Cette bête s'est réveillée au milieu de pantins qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens brandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Eh oui, méfiez-vous, la bête est revenue, c'est sûr. Donc, Elsa, tu vas pouvoir nous dire,
oui,
pendant un tout petit quart d'heure, quelques pages de Bertrand Jonel.
Oui. Ben, je continue sa réflexion. Comment la souveraineté peut contrôler le pouvoir ? Au sortir des mains de Rousseau, la théorie de la souveraineté populaire offre un parallélisme assez frappant avec la théorie médiévale de la souveraineté, de la souveraineté divine. L'une et l'autre admettent un droit illimité de commandement, mais qui n'est pas inhérent au gouvernement. Il appartient, ce droit, à une puissance supérieure, Dieu ou le peuple, empêché par sa nature de l'exercer elle-même. Et qui doit donc confier un mandat au pouvoir effectif ? Il est plus ou moins explicitement énoncé que les mandataires sont tenus par des normes, la volonté divine ou la volonté générale à régler le comportement du pouvoir. Mais ces mandataires seront-ils nécessairement fidèles ? Ou tiendront-ils à s'approprier le commandement qu'ils exercent par délégation ? N'oublieront-ils point la fin pour laquelle ils ont été institués, le bien commun, les conditions auxquelles ils ont été soumis, l'exécution de la loi divine ou populaire ? Et enfin, n'usurperont-ils pas la souveraineté ? On ne doit jamais oublier que quand Rousseau réserve au peuple le droit exclusif de faire la loi, il entend par là des prescriptions très générales, et non pas toutes les dispositions précises et particulières que le droit constitutionnel moderne embrasse sous le nom de législation. De sorte qu'enfin, ils se donneront pour résumant en leur personne la volonté divine ou la volonté générale. Ainsi voit-on Louis XIV s'arroger les droits de Dieu ou Napoléon ceux du peuple. il a toujours été attentif à fonder son autorité sur la souveraineté du peuple. Ainsi, dans cette déclaration, la révolution est close. Ses principes sont fixés dans ma personne. Le gouvernement actuel est le représentant du peuple souverain. Il ne peut y avoir de révolution contre le souverain. Et Mollet remarque, dans « Souvenir d'un témoin » 1943, édité à Genève, « Pas un mot n'est sorti de la bouche ou de la plume de cet homme qui ne porte le même caractère, qui ne se rattache au même système, qui n'aille au même but, reproduire le principe de la souveraineté du peuple qu'il croyait le plus erroné et le plus fécond en conséquences funestes. Comment l'empêcher, sinon par un contrôle du souverain sur le pouvoir ? Mais la nature du souverain ne lui permet pas plus de contrôler que de gouverner. De là l'idée d'un corps qui, le représentant, surveille le pouvoir effectif, précise à l'occasion les normes selon lesquelles il doit agir et, en cas de nécessité, prononce sa déchéance, pourvoit à son remplacement. Dans le système de la souveraineté divine, ce corps était nécessairement l'Église. Qu'on ne me fasse pas dire que dans la société médiévale, le seul corps contrôleur et arrestateur du pouvoir était l'Église. Nous ne décrivons pas ici les faits, nous analysons les théories. Dans le système de la souveraineté populaire, ce sera le Parlement. Mais ainsi, l'exercice de la souveraineté se trouve concrètement divisé. Il apparaît une dualité de pouvoir humain. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel en matière temporelle, ou bien l'exécutif et le législatif. La métaphysique de la souveraineté, tout ensemble, mène à cette division et ne peut la souffrir. Des empiriques peuvent y trouver la sauvegarde des libertés, mais elle doit être un scandale pour quiconque croit en la souveraineté, une et indivisible par essence. Quoi donc ? La voici partagée entre deux catégories d'agents ? Deux volontés s'affrontent, mais toutes deux ne peuvent être la volonté divine ou populaire. Il faut que l'un des deux soit le reflet véritable du souverain, soit la volonté adverse, donc est rebelle et doit être subjuguée. Ses conséquences sont logiques si le principe du pouvoir est dans une volonté qui doit être obéie. Il faut donc qu'un corps l'emporte. Au sortir du Moyen-Âge, ce fut la monarchie. Dans les temps modernes, c'est de l'exécutif ou du législatif celui qui tient de plus près au souverain populaire. Le chef de l'exécutif, lorsqu'il est élu directement par le peuple, comme Louis-Napoléon, comme Roosevelt. Le Parlement, au contraire, lorsque, comme dans la Troisième République française, le chef de l'exécutif est plus éloigné de la source du droit. Toutes les fois, observe Sismondi, qu'il est reconnu que tout pouvoir procède du peuple par l'élection, ceux qui tiennent le plus immédiatement leur pouvoir du peuple, ceux dont les électeurs sont le plus nombreux, doivent croire aussi leur pouvoir plus légitime. De sorte qu'ou bien les contrôleurs du pouvoir sont finalement éliminés, ou bien, comme représentant le souverain, ils s'en assujettissent les agents et s'approprient la souveraineté. Il est remarquable sous ce rapport que tout en diminuant autant que faire se pouvait l'autorité des gouvernants, Rousseau se défiait prodigieusement des représentants, dont on faisait à son époque si grand cas pour ramener constamment le pouvoir à son office. Il ne voit de moyen de prévenir les usurpations du gouvernement que dans des assemblées périodiques du peuple pour juger l'usage qui a été fait du pouvoir. Décider s'il ne convient pas de changer la forme du gouvernement et les personnes qui l'exercent. Que la méthode fût inapplicable, il ne l'a pas méconnue. Dans l'entêtement qu'il a mis à la proposer, il faut voir la preuve de son invincible éloignement pour la méthode de contrôle qu'il voyait fonctionner en Angleterre et que Montesquieu avait porté au nu, le contrôle parlementaire. Il s'élève là contre une sorte de violence. Elle lui est manifestement odieuse. La souveraineté ne peut être représentée. Les députés du peuple ne sont donc et ne peuvent pas être ses représentants. L'idée des représentants est toute moderne. Elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégénérée et où le nom d'homme est en déshonneur. citation du contrat social. Il attaque le système représentatif dans le pays même que Montesquieu a pris pour modèle d'excellence. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Et pourquoi tant de colère ? On trouve chez Kant la même défiance des représentants. Le peuple écrit le philosophe, qui est représenté par ses députés dans le Parlement, trouve dans ses gardiens de sa liberté et de ses droits des hommes qui s'intéressent vivement à leur propre position et à celle des membres de leur famille, dans l'armée, la marine et dans les fonctions civiles, toutes choses dépendantes des ministres, et qui, au lieu d'opposer une résistance aux prétentions du gouvernement, sont toujours prêts, au contraire, à faire glisser le gouvernement dans leurs mains. Citation métaphysique des mœurs. Rousseau a senti qu'après avoir fait la souveraineté si grande, dès qu'on accorderait que le souverain pouvait être représenté, on ne pourrait empêcher le représentant de s'arroger cette souveraineté. Et tous les pouvoirs tyranniques, en effet, qui se sont depuis lors élevés, ont justifié leurs injures aux droits individuels par la prétention qu'ils s'arrogeaient de représenter le peuple. Plus spécialement, il a prévu ce qui paraît avoir échappé à Montesquieu, que la puissance parlementaire croissant pour l'heure au détriment de l'exécutif et par suite limitatrice du pouvoir en viendrait à se subordonner l'exécutif, à se fondre avec elle, reconstituant un pouvoir qui pourrait prétendre à la souveraineté.
Merci Elsa pour ce beau texte.
Oui.
Donc, je vous rappelle, si vous voulez soutenir l'Union pacifiste, vous pouvez vous abonner au journal, ça vous coûtera 30 euros. Et pour adhérer à l'Union pacifiste, avec 25 euros supplémentaires, donc 55 euros en tout. Donc, vous pouvez envoyer ce chèque à l'Union pacifiste, section française de l'Internationale des résistants à la guerre, 66 boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Et je rappelle le site internet www.unionpacifiste.org. Voilà. Donc vous pouvez écouter cette émission en podcast dans une heure, et normalement ça reste dans la mémoire de la radio pendant une année complète. Donc écoutez les autres émissions de nos autres camarades qui sont tous des bénévoles à la radio. Toutes les émissions qui passent sur Radio Libertaire, c'est tout des bénévoles, et tout le monde apporte ses CD propres, ou ceux qui ont la chance, des fois, s'ils sont bien avec certains distributeurs des grosses firmes, ils en reçoivent aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à soutenir non seulement l'Union Pacifiste, mais aussi Radio Libertaire. Voilà. Donc, ce dimanche 5 mai, ça s'appelle Rémi Tarrier, sera à 16h. Il fera un concert avec Olivier Philipson à Publico, 145 rue Hamelot, dans le 11e, métro Oberkampf et Fille du Calvaire. Voilà. Merci à vous. Et après nous, ce sera Jazz Yves, avec toutes les nouveautés qu'il aura. Bonne soirée à tous, et surtout, lâchez pas la patate.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Si nous aurons déjà notre place dans la légende des amants, nous deux, alors quand sautera la planète, si jamais sonnent les trompettes, on s'en foutra et dire. Les gens tissent de sang cœur, et si j'en suis triste, je n'en serai pas étonné. Car ce cœur pitoyable et tendre, à toi seul qui sus le prendre, depuis longtemps je l'ai donné. Et tout comme aujourd'hui je te donne cette chanson de fin d'automne qui se voulait chanson d'amour. Je ne suis ni saint ni apôtre et pour penser encore aux autres. En attendant ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Puisque nos âmes vagabondes allons faire le tour du monde, nous deux. Puisque vagabondes nos âmes, embrassons-nous tout près des lames de l'océan des mauvais jours, nous deux. Et puis à nos amours fidèles au cœur des neiges éternelles, allons-nous perdre pour toujours, nous deux.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se grippaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4, en direct des studios, Yves au micro, pour la deuxième fois cette semaine. Et Laurent à la technique, oui, je dis la deuxième fois, parce que vous m'avez entendu lundi après-midi dans l'émission Trou Noir, l'émission de Serge et Monique, où il y avait la présentation des nouvelles émissions, dont la mienne nouvelle émission, GMC+, hein, Gabriel Maurice-Claude et les autres, que vous aurez jeudi prochain. Qui sera sur un thème, je vous le dirai, vous regarderez sur l'agenda de la radio. Vous pouvez le consulter d'ailleurs pour l'ensemble des émissions. Numéro du studio 01 43 71 89 40. N'oubliez pas de télécharger la souscription. N'oubliez pas que si vous êtes équipé, on peut maintenant nous écouter en DAB+, en région parisienne. Vous avez la possibilité de réécouter le podcast pendant 12 mois après la fin de la diffusion ou le télécharger. Pour l'archiver, ça va être des collecteurs. Et ensuite, vous pouvez me consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre sur laquelle je mets l'ensemble des informations, playlists, pochettes des albums, etc. Si vous avez besoin de renseignements. DK51, @sfr.fr si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Voilà. Alors, ce soir, des merveilles, des petites merveilles, des pépites, des trucs hallucinants. Et je ne vais pas trop m'étendre parce que, évidemment, la parole sera à la musique essentiellement. Donc, des inédits, voilà. Des inédits qui sont sortis tout récemment avec, évidemment, comme d'habitude, le génial Zeffelmann, le Globetrotter, celui qui retrouve tout un tas de choses, dont les pochettes, les livrets, le contenu éditorial est absolument génial avec, en général, il se débrouille toujours pour avoir des témoignages des artistes de l'époque. Et là, c'est vraiment un plus. Et donc là, on va commencer par un album donc qui vient de ressortir de Youssef Latif, qui s'appelle Atlantis Lullaby, qui a été enregistré à Avignon en 1972, je crois, en juillet 72 à Avignon. Il est accompagné par Kenny Baron au piano, avec également, je n'ai plus la section rythmique, mais je... Bob Cunningham à la contrebasse. Et voilà, et Albert If à la batterie, et donc ce sera également notre hommage à Albert If. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il nous a quittés il y a 15 jours, 3 semaines, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc bah, voilà, on va faire d'une pierre deux coups. Alors Youssef Latif, bon, je vous le présente pas, hein, il a fait partie du sextet de Cannonball Adderley pendant de nombreuses années, dont notamment ce magnifique en public à Comblain-la-Tour, le dernier album de la compagnie Riverside, hélas, disparu depuis, mais qui est absolument fantastique. Alors c'est un musicien qui, au sein du sextet de Cannonball, jouait du ténor, de la flûte et